Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Feu vert pour la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Le conseil d'administration du constructeur français est d'accord. Et même les syndicats y sont plutôt favorables. Vous l'entendrez dans un instant. Nous reviendrons ensuite sur l'interview d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles. Le chef de l'État y parle immigration et religion. Et puis pourquoi Jair Bolsonaro menace la première chaîne de télévision brésilienne de lui couper les vivres? Nous irons à Rio de Janeiro lors de ce journal. Le conseil d'administration de PSA a donc donné son accord hier soir pour une fusion avec l'italo-américain Fiat Chrysler. En cas de succès de cette fusion, le futur groupe deviendrait le numéro 4 mondial, derrière Volkswagen, Renault, Nissan et Toyota, avec plus de 8,5 millions de véhicules vendus sous 11 marques différentes. Et pour Fiat Chrysler, ce mariage est synonyme de porte ouverte sur l'Asie, d'un meilleur ancrage européen et de moteurs plus puissants. Et pour PSA, c'est l'ouverture vers le marché nord-américain avec des véhicules haut de gamme. Une perspective plutôt bien accueillie par les syndicats à Sochaux, notamment Christophe Beck.
À Force Ouvrière, on veut croire à un rapprochement gagnant-gagnant qui déboucherait sur la naissance du quatrième constructeur mondial. Patrick Michel, secrétaire FO du comité de groupe Monde chez PSA.
Alors clairement, ça ouvre le marché américain, hein, où PSA est absent aujourd'hui. Et deuxièmement, ça permet aussi d'avoir une taille suffisamment importante face aux géants. Toyota notamment et Volkswagen.
FO qui va jusqu'à demander l'attribution d'un véhicule Fiat en fabrication dans la première usine du groupe à Sochaux. Mariage gagnant aussi pour Laurent Huxel de la CFE-CGC.
Un mariage comme avec Fiat et Chrysler, l'intérêt c'est qu'ils sont sur des plaques que nous on n'est pas. Après PSA aussi des longueurs d'avance sur l'activité moteur. On est quand même plutôt bien positionné sur tout ce qui est CO2.
Reste la question de l'emploi et des usines en France. Tout le monde s'accorde pour défendre les positions de PSA. À l'image de Jérôme Boussard pour la CGT de Sochaux, qui dresse un bilan plutôt négatif des dernières années.
Aujourd'hui, le groupe PSA fait 30 000 emplois sur 5 ans au moins. Donc on a peur que cette fusion ou mariage se traduise en perte d'emploi chez PSA.
Des syndicats de Sochaux méfiants ou enthousiastes, mais convaincus que les discussions vont aller assez vite vers une publication des bancs.
C'était Christophe Beck de France Bleu, Belfort Montbéliard pour France Culture. Dans le secteur ferroviaire à présent, l'heure n'est pas aux félicitations ou aux projets, mais à la discussion, tant bien que mal. Dans un contexte de grève multiple, les syndicats de la SNCF seront reçus ce jeudi par les ministres Jean-Baptiste Djebbari et Jean-Paul Delevoye, en charge des transports et des retraites. Il s'agira de discuter de la future réforme des retraites qui transformerait le régime spécial des cheminots en un système universel à points. Les critiques pleuvent à gauche depuis hier en direction d'Emmanuel Macron. Le président de la République est à la une ce matin du très droitier hebdomadaire Valeurs Actuelles. Une interview réalisée en fin de semaine dernière dans laquelle il s'exprime sur l'immigration, le communautarisme ou encore le voile, Stéphane Robert.
Dans cette interview, Emmanuel Macron revient sur la question du port du voile qui nous a beaucoup occupés depuis un peu plus de 2 semaines. Il explique que ce n'est pas une mère voilée dont l'enfant va à l'école et est intégré qui pose problème. Non, c'est plutôt le fait que certaines personnes qui ne sont pas intégrées utilisent la religion pour se victimiser et pour provoquer la République. C'est ça, selon lui, l'échec de notre modèle d'intégration républicain. Il faut bien faire la différence pour le chef de l'État entre la pratique religieuse et l'utilisation de la religion à des fins politiques qui se traduit par un repli communautaire et une remise en cause des règles républicaines. Il défend par ailleurs sa politique en matière d'immigration et notamment la lutte contre l'immigration illégale. Quand j'arrive en 2017, les chiffres, dit-il, sont épouvantables en matière de reconduite à la frontière. Il affirme aujourd'hui avoir réarmé le dispositif, notamment en réduisant à 6 mois l'examen des demandes de droit d'asile, et dit avoir pour objectif de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là. Parallèlement, dans un en même temps très macronien, il explique que la France a toujours été une terre d'immigration et qu'il ne faut pas jouer les hypocrites. Les secteurs du BTP et de la restauration ne fonctionnent pas aujourd'hui sans l'immigration. Une question sur laquelle Emmanuel Macron refuse les discours simplificateurs afin de ne pas se retrouver, conclut-il, comme depuis 15 jours avec le débat sur le voile, pris en otage entre deux périls, le communautarisme islamique et le Rassemblement national.
Les acteurs économiques affectés par l'incendie de Lubrizol il y a un mois à Rouen vont commencer à percevoir des indemnisations d'ici la mi-novembre. Emmanuel Macron l'annonçait hier soir lors d'une visite à Rouen. Il y a assuré qu'un événement diplomatique d'ampleur internationale y sera organisé d'ici l'année prochaine, se voulant rassurant face à des habitants toujours inquiets du risque de pollution sur place. Compte rendu de cette visite d'Emmanuel Macron lors du journal de 7h. Mais d'ici là, à 6h34 et à un peu moins de 5 mois des municipales, nous penchons ce matin sur la stratégie de la France insoumise. Elle a investi un peu plus de 200 candidats, certaines figures notamment, comme Daniel Simonet à Paris, mais ce sont souvent des militants inconnus ou presque, et ils s'allient le cas échéant avec d'autres listes, Pierre Neveu.
Elle semble loin la dynamique de mai-juin 2017 pour la France insoumise. La déroute aux européennes du mois de mai a laissé des traces. Alors pour ce scrutin municipal de 2020, les insoumis ne se sont pas fixés d'objectifs chiffrés, expliquant qu'il est difficile pour une jeune formation politique de s'attaquer à des bastions et formations politiques implantées localement depuis longtemps. La stratégie est donc de soutenir des collectifs et des initiatives citoyennes. Et au cas par cas, des listes de gauche ou formations écologistes qui respectent des marqueurs obligatoires telles que la démocratie participative ou la gratuité des cantines bio. Ainsi, à Grenoble et Toulouse, la France insoumise a décidé de rallier la liste Europe Écologie Les Verts. Mais il s'agit là de cas bien spécifiques, car bon nombre de militants écologistes ont décidé de conduire des listes autonomes. Autre situation, par exemple, à Marseille, la suppléante de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale rejoint une liste où l'on retrouve les différentes couleurs de la gauche, PS, Génération, PCF et Place Publique. Cela dit, les insoumis ne cachent pas leurs ambitions dans certains fiefs communistes, comme à Saint-Denis, en région parisienne, où deux listes issues de la majorité communiste France Insoumise se déchirent, rappelant le divorce du front de gauche avant la présidentielle, à tel point que les signataires d'une pétition appellent à l'unité à gauche. Officiellement, ces municipales serviront de laboratoire à la révolution citoyenne, mais derrière ces scrutins du mois de mars, c'est clairement l'objectif 2022 que prépare le mouvement de Jean-Luc Mélenchon.
Pierre Neveu, qui évoquait à l'instant Saint-Denis. Le département de Seine-Saint-Denis attend ce matin des annonces de la part du gouvernement pour le soutenir et pour le dynamiser. Sont notamment prévues une prime de 10 000 euros pour fidéliser les fonctionnaires, le recrutement de 150 policiers ou encore le renforcement des contrôles des logements insalubres. Au Brésil, le président Jair Bolsonaro s'en est très violemment pris à la télévision Globo, la première chaîne du pays, allant jusqu'à la menacer hier après un reportage qui lui était peu favorable. Anne Vigna nous raconte la scène.
C'est une vidéo de 24 minutes postée sur les réseaux sociaux et qui a surpris tout le monde au Brésil. Le président Jair Bolsonaro insulte copieusement la première chaîne de télévision du pays, la télévision Globo, en perdant totalement son calme.
TV Globo, vous voulez attaquer le Brésil, c'est ça? Je sais qui vous êtes, des canailles. Ce journalisme que vous faites est pourri. Comme président, je vous le dis, il n'y aura plus d'argent public pour vous. C'est fini. Je ne vais plus vous parler. On ne parlera qu'en 2022 pour renouveler votre concession. Il n'y aura plus de passe-droit pour vous.
Emmanuel Colombier, directeur de Reporters sans frontières en Amérique latine, a immédiatement réagi aux propos du président.
Cette vidéo m'inspire de la désolation, mais surtout de l'inquiétude, parce que la virulence, là on parle vraiment d'insultes du président contre le groupe Globo, est inégalée. C'est évidemment un encouragement à attaquer les journalistes et à dénigrer le travail de la presse, donc c'est très préoccupant.
La raison de la fureur présidentielle est un reportage qui montre que le nom du président est désormais cité dans l'enquête sur le meurtre de la conseillère municipale de gauche Marielle Franco, assassinée en mars 2018. L'un des assassins présumés vivait en effet dans le même lotissement que le président et selon le portier, il se serait rendu quelques heures avant le crime chez le président qui lui était à Brasilia.
300 millions de personnes sont menacées d'inondations, seront menacées d'inondations d'ici 2050. Voici le chiffre et la carte du monde qui va avec, publiée dans la revue Nature. Une partie de l'Asie va notamment subir de plein fouet la montée des océans, Nathanaël Charbonnier.
Les cartes présentées par les chercheurs sont assez impressionnantes. On y voit en effet des régions entièrement recouvertes d'eau. Cela concerne la Chine, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande ou encore, de façon plus importante, le Cambodge et le Bangladesh avec des villes comme Dhaka ou Calcutta. On estime à 110 millions le nombre de personnes qui vivent dans des régions situées en dessous du niveau de la mer, donc particulièrement vulnérables, qui devraient faire face à des inondations permanentes. À cela s'ajoutent 250 millions de personnes qui se retrouveront tôt ou tard exposés à des inondations fréquentes, survenant au moins une fois par an suivant la force des tempêtes. L'un des aspects intéressants relevés par les chercheurs est que rien n'est totalement acquis suivant l'action de l'homme sur ses émissions de gaz à effet de serre. Le nombre de personnes qui pourraient se retrouver en difficulté pourrait varier considérablement entre 300 et 500 millions. L'Asie concernait en premier chef une certitude, mais la menace concerne aussi la France. 1 million d'habitants pourraient avoir les pieds dans l'eau d'ici 2050, avec des inondations qui concerneront l'ouest du pays, Gironde, Pays de la Loire ou encore la Charente-Maritime et les Hauts-de-France. Et même raisonnement que pour l'Asie, suivant l'action de l'homme d'ici 2100, le nombre de personnes touchées dans notre pays pourrait varier de 1,2 à 1,7 million de personnes.
En France métropolitaine, aujourd'hui jeudi, il n'est pas question d'inondations, mais d'averses nombreuses, avec 9 degrés ce matin à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Paris, 21 à Bastia.